tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, sensibilité, intelligence, souffrance, qu'est-ce qui nous différencie des plantes? Lassée de l'analogie facile entre l'arbre et l'animal, elle réfléchit aujourd'hui à cette question sous l'angle philosophique. La philosophe Florence Burga, directrice de recherche à l'INRA, auteur de « Qu'est-ce qu'une plante ?» au Seuil, nous rejoindra dans la deuxième partie de la Grande Table. Mais d'abord, il aurait eu 100 ans cette année. À 39 ans, le cœur de l'auteur de « L'écume des jours » s'est arrêté. Romancier, chroniqueur musical, parolier, Boris Vian, une comète dont on suit la trace jusqu'à midi et demi avec nos invités, l'écrivain Hervé Le Tellier, pour « On n'y échappe pas » chez Fayard, qui reprend la plume de Vian pour terminer avec ses camarades de l'Oulipo ce roman inachevé. Et Nicole Berthold, directrice du patrimoine de l'œuvre de Vian, biographe, elle intervient dans un documentaire, notamment dont France Culture est partenaire, « Boris Vian, un cœur qui battait trop fort », diffusé demain sur France 3.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Un film qui raconte la dernière année de Boris Vian et un roman inachevé qui ne l'est plus. Bonjour Nicole Berthold.
Bonjour.
Et bonjour Hervé Le Tellier.
Bonjour.
Alors commençons par la fin. Vian meurt le 23 juin 1959 au cinéma. Il était allé voir l'adaptation de son roman « J'irai cracher sur vos tombes ». Vous dites dans ce film documentaire diffusé demain sur France 3, consacré à Vian à cette dernière année, Nicole Berthold, il meurt certes sur les bancs du cinéma, mais pas à cause du film. Même s'il désapprouvait cette adaptation couleur série B de son roman, il avait déjà son teint d'endive. Il était déjà malade. Et cette année 59, tout s'est accéléré.
Oui, absolument. Je ne veux pas faire d'amalgame et de choses un petit peu rapidement dites depuis très longtemps. Bien sûr, c'est presque toujours comme ça que ça se passe au niveau d'une histoire comme la sienne. Et il était facile de faire ce raccourci. Il est mort devant le film, devant l'adaptation qui ne lui plaisait pas. Boris Vian est atteint d'une malformation cardiaque depuis l'âge de 12 ans. À 15 ans, ça va encore s'accélérer. Et puis, petit à petit, par le genre de vie qu'il a choisi de mener, en fait, son cœur va battre de plus en plus fort pour chercher l'oxygène et pour chercher ce qu'il lui faut, au point qu'on voyait sa chemise se soulever, même déjà du temps de Saint-Germain-des-Prés. Et Juliette Gréco, Anne-Marie Casalis avaient l'habitude de dire quelque chose de très joli. « Tu nous offres ton cœur deux fois ». La première fois parce que t'es un mec généreux et tu montes sur scène avec ta trompette. Et la deuxième fois parce qu'on sait que ça te fait pas du bien et que tu risques d'en mourir. Alors, 10 ans plus tard, malheureusement, effectivement, ce jour-là, c'était la goutte, comme on dit, qui fait déborder le vase. Et il meurt devant cette adaptation.
Une dernière année menée tambour battant à l'image de la vie que de celui qui se savait condamné, hein, irresponsable. Ça, c'est Michel Léglise, son épouse, ex-épouse en tout cas, qui le dit. Il voulait tromper la mort, tromper cette mort annoncée qu'on lui avait pronostiquée, prédit très tôt, diagnostiquée finalement. Hein. Il avait décidé de vivre à fond.
Oui, je crois aussi que c'était une façon de vivre chez les Vian. Hein. Les parents Vian avaient quand même éduqué leurs 4 enfants dans cette direction, hein, de jouir de tout au maximum. Ils étaient déjà eux-mêmes anti-institutionnels. Ils n'avaient pas mis au départ leur enfant à l'école, etc. C'est toujours important de revenir à la souche. On n'est jamais exactement ce qu'on est, sans parler quand même de ce qu'on a vécu, dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Et les parents ont été un exemple de libertaire et de liberté donnée aux enfants. Donc Boris Vian a envie de faire absolument tout et forcément quand il va se savoir diminuer en tout cas, peut-être pas condamné mais diminué, oui il aura envie d'en faire encore plus mais aussi parce que c'est un homme étonnamment curieux, étonnamment intelligent, étonnamment même surdoué, qui a aussi énormément prospecté dans des tas de directions. Donc le jour où ça va exploser, c'est-à-dire au moment de la libération à Saint-Germain-des-Prés, en 1944-45, il y a tout qui va partir dans tous les sens, mais pas n'importe comment quand même. Sauf que pour l'extérieur, ce sera un peu du n'importe quoi et du fourre-tout. Mais pas pour Boris Vian.
Il écrit encore beaucoup sur cette dernière année, 58-59, Hervé Le Tellier.
Non, il n'écrit plus. En fait, Boris Vian a cessé de faire autre chose que des chansons et de la musique à partir de 53. La plupart de ses œuvres qui ont eu du succès l'ont d'ailleurs pas eu sous son nom. Je crois que dans les années 60, les rééditions d'ailleurs des livres sous le nom de Vian ne marchent pas du tout non plus. Les livres qui ont marché de Boris Vian sont des livres qui sont en fait signés Vernon Sullivan, qui sont parus aux éditions du Scorpion. et qui sont des policiers pastiches de Chandler et qui seront des succès. Mais les livres de Vian ne sont pas publiés à partir de 53. Voilà, ce ne sont pas des grandes réussites.
Voilà, et ça, il faut le dire, parce que comme vous avez repris un roman inachevé avec vos camarades de l'Oulipo, on a tendance à penser que ce roman n'a pas été terminé parce qu'il a été foudroyé par cette crise cardiaque jour de 1959 et qu'il n'a pas pu le terminer. En réalité, il avait commencé à l'écrire beaucoup plus tôt, près de 10 ans avant sa mort.
Ouais. Il a commencé à l'écrire et il dit d'ailleurs de ce roman, j'ai une idée formidable et si je la rate, je me suicide à la banane frite et au rat loukoum. Il écrit 4 chapitres, ça doit faire mal. Oui. C'est un transement douloureux. Des exemples existent. Donc, il écrit 4 chapitres sur un coin de table assez rapidement. C'est une écriture très très sèche, très vive, très Vernon Sullivan. Enfin, il y a beaucoup d'écriture Vernon Sullivan. Quand on regarde bien comment sont écrits les différents polars de Vian, il y a plusieurs écritures en fait. Et il écrit également un synopsis sur 2 pages. Synopsis qui se termine par la phrase « on n'y échappe pas », phrase qu'on a extraite du synopsis pour en faire le titre du roman, parce que ça nous paraissait tout à fait dans la continuité de ce que faisaient Vernon Sullivan et Boris Vian. J'irai cracher sur vos tombes, etc. Et à partir de ce synopsis assez précis et en même temps assez ouvert, et des 4 chapitres, on a poursuivi sur 12 d'autres chapitres le roman.
Ce roman, inachevé, il l'écrit pour la série noire. Il enchaîne après aussi sur d'autres projets. Sa veuve a gardé les précieux feuillets. Et vous voilà donc chargé, vous, d'écrire la suite. Nicole Berthold, c'est vous qui avez conservé depuis ce moment-là, les précieux feuillets et manuscrits. Vous saviez que vous en feriez quelque chose à un moment ou à un autre, que vous donneriez les clés de l'encrier à quelqu'un, mais il restait à savoir qui. Pourquoi vous avez choisi la bande de l'Oulipo ?
C'est joliment dit. Chez Vian, depuis plus de 40 années où je suis dans la maison, au service de cette œuvre et de la famille, souvent je vois qu'il y a une espèce de rythmique qui me fait dire « Tiens, c'est le moment de faire ci, tiens, c'est le bon moment de faire ça. » Voilà. Et puis, pour le centenaire, mais bien avant le centenaire, plusieurs années même avant, je suis allée voir Sophie de Closet, PDG de chez Fayard, presque toute le vrai, et je lui ai dit on va essayer de trouver une idée pour que quelqu'un puisse reprendre ce livre et puis ces 4 chapitres. Et puis finalement, oui, bien sûr, parce que Ursula Vian m'avait dit il faut absolument un jour en faire quelque chose, mais attention, en faire quelque chose de bien. Et puis je trouvais pas, je tournais en rond, puis elle aussi, puis on savait pas, et puis une nuit ça m'a pris, je me suis dit nom d'une pipe, j'ai trouvé, faut le donner à l'Oulipo, c'est évident. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça, parce que ça correspond complètement au genre, non pas pour simplement écrire, mais pour qu'il y ait quelque chose de plus. Voilà. Et ils ont réussi quelque chose de formidable.
Enfin, c'est évident, mais ça l'est pas totalement, parce que l'Oulipo, Vian ne l'a pas connu. Hein. Il était plutôt, lui, membre du collège de pataphysique, introduit dans cette petite société confrérie par Raymond Queneau. On écoute un extrait du documentaire Boris Vian, un cœur qui battait trop fort, diffusé sur France 3 demain.
Comme tout bon pataphysicien, ce qui m'intéresse, c'est l'exception. Ce qu'il faut éliminer, c'est cette mollesse de langage qui fait qu'on parle de quelque chose sans définir exactement de quoi on parle.
Nous demanderons à nos auditeurs d'oublier pour un instant leurs préoccupations quotidiennes et de bien vouloir se pencher sur cette 4e dimension psychologique, littéraire et morale que représente avec tant de puissance et de dignité la pataphysique.
Pour vous donner un détail personnel, je suis venu à la pataphysique vers l'âge de 8 ou 9 ans en lisant une pièce de Robert de Flair et de Caillavet qui s'appelle La Belle Aventure. Elle contenait notamment cette réplique. Je crois qu'elle peut initier tout le monde très aisément et très rapidement à la pataphysique. Et c'est la suivante. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. La pataphysique est admirablement définie par Alfred Jarry dans Les gestes et opinions du docteur Faustrol.
Définition. La pataphysique est la science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité.
Voilà, l'Oulipo, c'est au contraire, en parallèle, un groupe littéraire créé en 60, un an après la mort de Boris Vian, dire un groupe tendance surréaliste qui joue avec les potentialités du langage en travaillant sur des textes à contrainte, mouvement que vous avez rejoint, vous, Hervé Le Tellier, en 92. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement les pataphysiciens des oulipiens ?
Nous sommes une co-commission du collège de pataphysique, il faut s'en souvenir. Donc la logique d'associer l'Oulipo à la pataphysique est quasiment ontologique, hein. On est né au sein du collège. Il se trouve que Vian meurt en 59, que l'Oulipo naît en 60, mais qu'il ne fait pas trop de doute pour nous que Borisian a été membre du groupe dès le départ. Si on regarde les amis qui l'ont défendu ensuite au niveau littéraire, vous allez trouver Noël Arnaud, deuxième président, vous allez trouver Raymond Queneau, vous allez trouver Jacques Binz, vous allez trouver François Caradec, vous allez trouver Jacques Duchâteau, vous allez trouver François Le Lyonnais, vous allez trouver toute une série d'individualités qui, toutes à leur façon, vont défendre l'œuvre littéraire de Borisian et surtout vont faire qu'il ne soit pas uniquement classé dans l'univers des musiciens, qu'on rappelle l'existence de ses œuvres comme l'écume des jours, comme voilà tous les livres qu'on connaît, l'automne à Pékin, tous ces livres-là qui sont défendus très fortement par Queneau, qui dit que par exemple l'écume des jours est un des plus magnifiques romans d'amour du contemporain et un roman fulgurant de beauté. Donc la défense extrêmement acharnée des amis de Vian se passe beaucoup par des membres futurs de l'Oulipo. Donc il y a une logique qui est une logique de continuité, de quasiment, de filiation, on peut dire, et de cousinage très fort en tout cas. Je pense que personne ne peut vraiment douter au sein des fondateurs de l'Oulipo que si Vian avait survécu un an de plus, il aurait été membre fondateur.
Allez, on les retrouve, ses amis, en défense de Boris Vian. Brassens, Queneau, Salvador, Prévert, ils sont tous là.
Boris Vian est un de ces aventuriers solitaires qui s'élancent à corps perdu à la découverte d'un nouveau monde, la chanson. Si les chansons de Boris Vian n'existaient pas, il nous manquerait quelque chose.
Il a rencontrer une incompréhension à peu près totale. Le plus connu de ces romans, c'est donc L'écume des jours. C'est un roman d'amour et c'est même, à mon avis, l'un des plus poignants romans d'amour contemporains. Il dit dans l'avant-propos de L'écume des jours, « L'histoire est entièrement vraie puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre. »
Je vais vous dire, c'est un type qui savait qu'il était condamné. Il venait à la maison et il s'asseyait, il ne partait pas. Il travaillait le plus possible, il voulait se refuser de dormir pour pouvoir écrire le plus possible.
C'est comme ça que j'ai appris. C'est affreux quand on entend annoncer à la radio la mort de quelqu'un. Il est mort, précisément, en train de, à un moment où il visionnait un film tiré de son roman, j'irai cracher sur vos tombes. Cette voix était dégueulasse. Cette association d'idées était épouvantable. Ça m'a laissé une impression pénible.
Nicole Berthold, une réaction sur ces témoignages de proches, sur leur manière
c'est
de décrire aussi
émouvant,
leur vie.
J'ai passé beaucoup de temps avec Henri Salvador, j'ai eu la chance, grande chance, de rencontrer plusieurs fois Jacques Prévert. J'ai croisé Raymond Queneau, puisque je crois qu'il décède en 1976. Mmh. Et j'arrive en 1976. J'aurais vraiment beaucoup aimé les voir, tous ces gens-là, et discuter avec eux, m'a donné la possibilité de savoir très exactement ce qu'était Boris Vian. Mais je l'ai compris très longtemps plus tard, parce que quand j'arrive, j'ai 19 ans et je ne sais pas trop bien où j'arrive. Mais en attendant, ce sont des personnalités très différentes, mais qui ont tous un cœur généreux et qui ont tous apprécié profondément avec le cœur et l'esprit Boris Vian.
Boris Vian, vous l'évoquiez, Hervé Le Tellier, il y avait deux styles, voire beaucoup plus même. En tout cas, il y avait un style proche des romans signés Vernon Sullivan, comme J'irai cracher, et puis un style plus proche de ceux signés de son propre nom, comme L'écume des jours. Vous étiez quel lecteur de Vian? Quel Vian aimiez-vous dans les livres?
Moi, j'étais un lecteur de Vian, c'est-à-dire un lecteur de L'écume des jours, de l'arrache-cœur, de Quand il est engelé, des poésies, des poèmes pornographiques, de tout ce qui faisait Vian. Et puis après, j'ai lu les Vernon Sullivan par curiosité, que j'ai trouvé vraiment intéressant et décalé, proche de Chandler, proche de Mickey Spillane. Je pense pas que nous allions accepter un projet qui aurait consisté à finir un livre de Boris Vian. c'était trop compliqué, c'était trop se substituer à un auteur qui avait une voix tout à fait particulière. En revanche, s'amuser à finir un livre qui en soi est déjà un pastiche de Chandler, c'était faire un pastiche de pastiche, et ça, ça nous amusait énormément parce qu'on avait les codes, on avait quatre livres sur lesquels s'appuyer, on avait toute une série de directions déjà présentes, et en plus on avait le synopsis, etc. Mais on n'aurait pas, je pense, osé finir un Borisian.
Vous aviez le synopsis entier, c'est-à-dire que vous saviez comment Vian pensait terminer le livre.
Le synopsis était vraiment maigre, il faut bien le dire. Ça ressemble à un frigo qu'on ouvre et dans lequel on a trois légumes et on vous dit bon, faites-nous une belle soupe avec tout ça. Donc le synopsis était maigre, donc il a fallu l'enrichir au fur et à mesure qu'on a travaillé, ajouter beaucoup de suspects, beaucoup de morts, beaucoup de relances intérieures.
Mais vous connaissiez l'assassin ?
Ah, c'était indiqué dans le synopsis.
Ah ouais.
Oui. On a respecté l'intégralité du synopsis sans jamais tricher. Hein. Il n'était pas question une seconde de tricher. Il n'était pas non plus question pour nous, même si c'était une possibilité qu'on nous avait offert, de modifier les chapitres initiaux de Vian. On a préféré garder les quatre chapitres tels qu'ils étaient et ensuite, nous, de poursuivre, plutôt que de farcir les chapitres de Vian d'éléments supplémentaires pour relancer l'intrigue interne. On a préféré, au contraire, se situer dans la ligne droite indiquée par les quatre premiers et puis continuer dans cette direction-là.
Quels sont les premiers mots du premier chapitre ?
Hélène Brewster.
Ça, c'est très Vian.
C'est assez Vian parce que c'est musical. Si on regarde bien, c'est une sorte d'alexandrin ferroviaire même, puisque...
Et il est dans le train, d'ailleurs.
Il est dans le train, bien sûr, il est dans le train. Et c'est un roman qu'on a dédié à Omar Bradley. En fait, on a eu envie de le dédier à un personnage qui est directement concerné par le roman, puisque c'est le responsable des opérations en Corée. Et on s'est rendu compte... J'avais proposé qu'on le dédie à Omar Bradley parce que le livre « J'irai cracher sur vos tombes » est dédié au sénateur Bilbo, qui est un sénateur raciste américain. Et comme le livre « J'irai cracher sur vos tombes » parle beaucoup du racisme, ça semblait logique. Donc on dédie à Omar Bradley, mais de manière assez spontanée. Et puis on s'est rendu compte d'un truc absolument fou, en cours d'écriture des notes, c'est qu'Omar Bradley, ses mémoires, « Histoire d'un soldat », ont été traduites par Boris Vian. Et on s'est dit, non mais quel formidable hasard objectif que d'avoir dédié ce livre vraiment tout à fait spontanément à un type qui a été traduit par Boris Vian.
France Culture, il est midi 19 avec nos deux invités aujourd'hui, Nicole Berthold, biographe de Boris Vian, et Hervé Letellier, à l'occasion de la parution de « On n'y échappe pas ». Boris Vian et l'Oulipo, c'est chez Fayard.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Si on veut faire quelque chose de différent, il faut s'attendre à ne pas rencontrer la compréhension tout de suite. Je crois que le créateur ne doit absolument pas se soucier de l'opinion du plus grand nombre, ni pour la mépriser, ni pour la rechercher. Le créateur doit créer ce qui lui plaît au moment où il le crée.
Nicole Berthold, il faut pas se soucier, dit-il, mais la vérité c'est qu'il était quand même lui-même assez sensible au regard des autres, et notamment de ses lecteurs. Il y a eu cette blessure au moment de l'écume des jours, que le livre soit moins aimé, moins acheté, moins lu peut-être que J'irai cracher, qui était un livre moins important pour lui.
Vous avez raison, il est bien obligé de le constater en 1946 puis 47. Néanmoins, comme on dit, il ne va pas retourner sa veste. Il va plutôt même continuer d'aller dans cette direction. Ce qui fait dire la phrase de Michel L'Église, que j'ai côtoyé pendant plus de 35 ans aussi, sa première épouse, que de temps en temps, il allait trop loin, il exagérait. Mais Boris Vian était effectivement pas quelqu'un de têtu. Il avait à dire ce qu'il avait à dire. Et c'était un créateur. Il le souligne et il le dit. Et il signe même là-dessus pour dire ce que j'ai à dire. Je vais le dire sous des formes différentes, mais je vais continuer de le dire. Il l'a dit en roman, il l'a dit avec les Vernon Sullivan, il l'a dit en chanson, il l'a dit en chronique, il l'a dit sous des tas de formes, mais il a toujours dit ce qu'il avait à dire. Donc, quelque part, sa pensée est plus importante et que tant pis s'il ne gagne pas sa vie avec, parce que c'est quand même ça. Hein. On oublie souvent ce côté purement matériel de Boris Vian. C'est quelqu'un qui a toujours tiré le diable par la queue. Il faut qu'il vive de tout cela. Il a arrêté d'être ingénieur. Et donc, c'est un peu compliqué. Et tant pis. Mais il ne change pas pour autant. Alors, il essaye, il introspecte d'autres voies. Hein, l'opéra, les ballets, etc. Il fait d'autres choses. Et puis, petit à petit, les choses vont marcher, mais difficilement quand même.
Il faut qu'il vive et qu'il fasse vivre sa famille. Il a deux enfants aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il écrit de tout, qu'il joue. Vous citiez les trois premiers mots du roman, de « On n'y échappe pas ». Hervé Le Tellier, Hélène Brewster. C'était la première maîtresse de Frank Bolton. Un héros, colonel de l'armée américaine, de retour de la guerre de Corée, avec une main en moins, qui retrouve sa famille et qui réalise vite que toutes ses anciennes maîtresses sont assassinées. Il va mener l'enquête avec Narcissus, détective aux véritables yeux de putain, pour tenter de retrouver l'assassin. C'est un polar américain, en fait, hein, oui, le polar américain de Vian, qui affectionnait ce genre. C'était un genre qui était très à la mode à ce moment-là où,
Il y a un livre qui, à l'époque, a connu un grand succès au niveau mondial. C'est un livre de Mickey Spillane qui s'appelle « J'aurais ta peau ». Et ce livre, je ne dis pas que c'est la base d'inspiration des livres de Dan Sullivan, mais c'est en tout cas quelque chose qui va dans la direction d'une certaine violence, d'une amoralité systématique, au point que Mickey Spillane aura des problèmes avec la censure aux États-Unis. Et c'est effectivement quelque chose qui à l'époque, connaît un succès irrésistible en France. Donc, je pense que c'est pour ça que Boris Vian va faire ce livre, d'abord parce que le Scorpion lui demande, enfin, l'éditeur du Scorpion lui dit de lui traduire un best-seller, et Boris Vian dit « Mais non, je ne voudrais pas traduire un best-seller, je vais te l'écrire. » Et donc, il écrit le premier roman du Scorpion, « J'aurais craché sur vos temps », qui connaît le succès qu'on connaît. Et même, il a la perversité, puisqu'il dit que c'est traduit par lui, de le traduire, en fait, et de proposer de voir l'édition américaine d'un faux Vernon Sullivan. Non, je pense que c'est un type de roman qui connaît beaucoup de succès à cette époque-là, qui est dans la ligne des romans d'ordre de Chandler, et qui s'oriente, que traduit d'ailleurs Michel Vian et Boris Vian. Et la logique vraiment de se payer sa voiture, puisque c'est quand même son projet, c'est d'acheter une voiture avec l'argent de Vernon Sullivan, va être parfaitement rempli, puisque je crois qu'il va vendre à 40 000, 50 000 le premier roman, ce qui est quand même considérable pour l'époque, ce qui en fait un petit best-seller.
Ouais. Vous jouez d'ailleurs, vous et avec vos camarades oulipiens, avec ces notes de traducteur que vous avez rajoutées en bas de page.
On est parti du principe qu'il joue sur les deux langues. Hein, ouais. Donc on traduit. On fait des jeux de mots en anglais qu'on traduit ensuite en français.
Ah. Ouais. Il y a ces jeux-là. Il y a aussi le côté très cadavre exquis de prendre la suite.
Bien sûr.
À plusieurs, en plus, de ces quelques feuillets écrits par Boris Vian. Et les oulipiens, on sait qu'ils travaillent avec la contrainte. Ici, quelle était-elle pour vous?
Alors, il y a eu plusieurs contraintes qui finalement ont été gommées, il faut bien l'avouer. C'est-à-dire, on avait au début un projet qui était à mi-chemin d'un roman oulipien et d'un roman sullivanesque. Et puis, pour le plaisir du lecteur, et pour unifier le style, pour faire une continuité vraiment narrative et fictionnelle qui ait du sens, on a finalement un peu gommé les contraintes oulipiennes. Mais il y avait des travaux absolument formidables. Il y avait Jacques Jouet qui avait réussi à faire un chapitre complet de 100 tons, c'est-à-dire un chapitre composé uniquement de phrases de Boris Vian, en s'imposant de ne même pas prendre deux phrases de suite dans le même roman. Mais malgré l'intérêt évidemment d'un tel chapitre, ça marchait pas très très bien dans la narration elle-même. Donc on a un peu fusionné tout ça. On a écrit nos 12 chapitres et après avoir écrit les 12 chapitres, on les a passés à la moulinette du roman et de la fiction pour que ça fonctionne extrêmement bien.
Et on retrouve chez lui, comme chez vous, cette écriture très musicale avec les jeux de mots, avec l'humour, avec tous les paronymes, enfin ces jeux avec les mots et la langue et ce rythme qui était prépondérant aussi dans ses phrases. À propos de musique, il y a un coffret qui sort ces jours-ci, coffret Jacques Kennedy avec 100 ans et 100 chansons signées Boris Vian.
Qui se s'est levé à mon approche. Debout, il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs, venez cueillir la fraise et l'amourette, et boire du sang.
Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois dès que j'ai des loisirs pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Voilà du Boris Vian par Magali Noël, Catherine Ringer, Boris Vian lui-même et Serge Reggiani. Il consacrait ses nuits au jazz du club qu'il a créé à Saint-Germain-des-Prés, à l'orchestre de bebop qu'il avait fondé avec ses frères, avant d'écrire des chansons et souvent de les chanter. Pour son centenaire, le centenaire de la naissance de Boris Vian, les éditions Jacques Kenati, du nom de son producteur, font paraître ce coffret anniversaire de 4 CD qui rassemble 100 chansons connues et moins connues. Je vous donne la parole juste pour nous annoncer les rendez-vous importants de ce centenaire dont vous avez connaissance, Nicole Berthold, quand vous ne les organisez pas vous-même.
Oui, merci de me laisser effectivement parler de ce centenaire que j'ai organisé au départ, mais à l'arrivée des tas de gens se sont ralliés à mon envie.
Aussi, ouais.
Oui, et ça a été merveilleux. J'ai essayé de le faire d'une façon très simple, un peu comme la vie de Boris Vian. Des livres, BD, illustrés, jeunesse, même pour les tout petits, en fait, scolaires également. Et avec les grands éditeurs comme bien sûr Fayard et le Livre de Poche, des concerts, bien sûr, dans tous les genres qu'il a connus, jazz et variété notamment, théâtre avec un festival au théâtre, audiovisuel avec deux grandes personnalités, Abdelmalik, que je salue au passage, et Monsieur Michel Gondry, qui m'a quand même réalisé 8 minutes d'un court-métrage, en remerciement, d'intégrer ce centenaire. Voilà. Des colloques, l'école centrale, la poste, la RATP. On est tous contents, on s'amuse tous.
On le trouve quelque part, ce programme. Voilà. Il est en ligne.
Bien sûr,
avec
il est en ligne.
Parce qu'on il c'est, est c'est à Paris, sans... mais c'est partout en France. Merci beaucoup à vous, Nicole Berthold, et merci Hervé Letellier. On n'y échappe pas. Boris Vian et Loulipo, c'est chez Fayard. Merci à tous les deux.